De quoi s'agit-il ?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non ?
Cinérama.
Vous en êtes sûr ?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant ?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Effectivement, on ne retient pas longtemps, une demi-heure à parler de cinéma, c'est Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors la semaine dernière, nous vous avons parlé de photos de famille, du doc sur Whitney Houston de Scheherazade, avec une interview du réalisateur et même du documentaire Un nouveau jour sur Terre. Eh bien, on continue de vous parler des films en salle depuis le 5 septembre.
Et je vous parlais donc de deux films de genre. D'abord d'Invasion, le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, quelques mois après, avant que nous disparissions. Et puis d'une sortie Blu-ray, un classique du giallo, Six femmes pour l'assassin de Mario Bava.
Et moi, je vous parlerai de Sophia de Meriem Ben-Barek. Excellent film, donc en salle depuis le 5 septembre. Et puis, il y a un autre film documentaire, lui. C'est celui de Nicolas Philibert, qui est sorti alors à la fin de l'été. Et on aura bien l'occasion d'entendre Nicolas Philibert parler de Chaque instant, donc, et de jouer un blind test spécial film documentaire, tout simplement, les films qui sont sortis dans les salles, voilà, on ne l'avait jamais fait celui-ci, et donc eh bien, ça nous donne l'occasion, comme il est presque de coutume dans Cinérama, de jouer un peu. On débute avec donc le cinéma japonais.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Alors, Invasion n'est ni une suite, ni un préquel d'avant que nous disparissions, mais une nouvelle adaptation de la pièce de théâtre à l'origine des deux projets. Alors, on ne peut pas parler d'auto-remake, mais davantage une variation autour d'une même trame narrative. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver un cinéaste de refaire deux fois le même film en si peu de temps ? Alors déjà, peut-être sa destination, avant que nous disparissions, a été conçue pour le grand écran, alors qu'Invasion est à l'origine une mini-série de 5 épisodes pensée pour la télévision japonaise, alors réduite à une durée de 2h20 pour sa sortie en salle. Alors l'histoire reste à peu près identique, les humains changent progressivement de comportement. Alors Etsuko, une employée d'une fabrique de textiles, se rend compte du changement de personnalité de son patron, de son ami et de son mari. Elle va réaliser que les humains perdent peu à peu leurs émotions et tout ce qui les rattache à leur existence. Alors elle fait la connaissance du docteur Makabe, un nom prédestiné, à se demander s'il s'agit d'une simple coïncidence. Alors qu'il semble avoir une emprise malsaine sur son mari, elle est persuadée qu'il est la clé du dérèglement opéré. Il n'est rien d'autre qu'un extraterrestre venu observer les humains avant l'invasion promise par le titre. Alors il retire aux humains, à la désigner par un guide, les concepts qui nous permettent de vivre sur Terre. Sans eux, nous perdons la raison, au point de sombrer dans la folie, à l'image de la jeune femme à qui l'on a retiré celui, par exemple, de la famille. Alors son père devient alors un étranger, pire même un fantôme qui la terrorise. Alors une nouvelle fois, cette approche, on va dire philosophique, voire existentielle de la science-fiction, demeure aussi troublante que fascinante sans jamais avoir recours au moindre effet spécial. Kurosawa vise les purs absolus, il ne cherche plus à séduire comme dans la précédente version, qui est étonnée par ses ruptures de ton tragicomiques et aussi le recours à pas mal de scènes d'action assez iconoclastes. Alors de plus, le casting glamour est remplacé par des comédiens physiquement beaucoup plus ingrats, moins séducteurs. L'héroïne avec sa coupe un peu à la Mireille Mathieu, elle est assez éloignée de la plastique de l'ex-mannequin Masami Nagasawa. Alors le désir d'attirer un public plus jeune s'est substitué à une volonté presque brutale de nous entraîner dans un univers ultra pessimiste à la limite du mortifère. Invasion est une œuvre cafardeuse qui baigne dans une atmosphère déprimante, rejoignant les premiers opus du cinéaste d'un point de vue de la forme. Alors une esthétique blafarde, appauvrie, domine le long métrage entre les décors lugubres d'administration ou d'entreprise et la lumière verdâtre qui nimbe ces architectures défraîchies. Kurosawa, alors, à travers cette esthétique déceptive, visant moins l'efficacité que la cohérence, décrit une humanité en perdition, sans se départir de son sens du romanesque. Alors, car s'il filme admirablement avec trois fois rien à la fin d'une civilisation, il reste attaché à une forme de sentimentalisme qui n'a rien de niais. Le seul concept que n'arrivent pas à appréhender les extraterrestres, c'est celui de l'amour. Voilà.
Ça ne change pas.
Ça ne change pas, voilà. Mais c'était exactement pareil dans le précédent. Hein. Alors, ce n'est pas nouveau chez le cinéaste, hein, puisque le précédent était identique. Hein. Invasion prolonge cette veine en y insufflant davantage d'émotions contenues. Hein. Et Tsuko, par un ultime geste désespéré d'amour fou, est prêt à sacrifier l'humanité tout entière pour ne pas perdre son mari. Alors, Kurosawa décline l'absurdité de l'existence à travers l'impuissance de nos décisions, toujours individualiste et jamais collective. Alors cette absence de vision à long terme, cet égoïsme paradoxal, puisque rattaché à une déraison amoureuse ne peut que nous mener à notre perte. Alors à travers un récit erratique, parfois flottant, hein, Invasion glisse progressivement d'un genre à l'autre. L'étrangeté du film, en dépit d'un rythme parfois engourdi, vient du déplacement opéré. Présenté comme un film de SF minimaliste, ce qu'il est en partie, Invasion renoue sinueusement dans sa seconde partie, surtout avec les meilleurs films de J-Horror, ces grands films de fantômes japonais. Hein. Le docteur Makabe est une silhouette maléfique, l'incarnation d'un mal décimant tout sur son passage. Hein. Les scènes où tout le monde s'écroule dès qu'il apparaît restent les moments d'une force incroyable, une force cinégénique assez incroyable, faisant passer quelques frissons comme on en ressent assez rarement. Alors ce personnage glaçant, au regard dénué d'émotion, représente un peu le cancer d'une société japonaise en gris, souvent symbolisée chez Kurosawa par le délitement d'un couple en perte de communication. Alors ce n'est pas la moindre qualité de parler de notre époque, même de manière aussi nihiliste et un peu souterraine, à travers une forme comme ça qui s'apparente à de la série B.
Eh bien, cette manière finalement de reprendre un film et de raconter une histoire...
C'est assez original et assez inédit. Hein. En habitude, on fait des remakes, mais là, il adapte deux fois la pièce et il le fait de manière, on va dire, complètement différente.
Et ça me fait penser, alors je fais un peu de teasing hein, pour l'émission de la semaine prochaine, puisqu'on pourra écouter Mathieu Sapin, le réalisateur de Le Poulain, film avec Alexandra Lamy. Et comme quand on l'a rencontré, en fait, il disait qu'il avait demandé à Alexandra Lamy de jouer eh bien, sur différents tons son personnage, ce qui permettait finalement au montage de faire plusieurs films. Alors, c'est pas aussi radical sans doute que ce que Kurosawa peut proposer, parce que lui, il a pensé vraiment son projet d'une manière totalement différente. Mais voilà, ça veut dire que quand on a une histoire, on peut toujours l'interpréter, la mettre en scène de plein de manières. Et on peut le prévoir aussi au tournage.
Et ce que je ne sais pas, est-ce qu'il l'avait prévu à l'avance ou est-ce que ça a été une commande pour la télévision par la suite ? Voilà, on peut toujours se poser la question qu'au départ, il ne pensait pas que ça allait, le film allait être exporté.
Oui. Eh bien, en tout cas, c'est maintenant dans les salles, ce film de Kurosawa. C'est comment déjà ?
Invasion, tout simplement.
Allez, on va maintenant parler de Nicolas Philibert. Il s'est fait connaître pour son doc « Être et avoir », a filmé une classe élémentaire à la campagne. Mais Nicolas Philibert avait fait bien d'autres films documentaires auparavant et a continué à filmer après. C'est Marine qui a pu rencontrer le documentariste qui faisait la promo de chaque instant sur les écrans depuis fin août. C'est un film qui l'accompagne dans toute la France.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Nicolas Philibert, à qui l'on doit être et avoir, et plus récemment la maison de la radio que j'avais chroniquée ici, pose sa caméra et sa sobriété habituelle dans une école d'infirmiers et d'infirmières de Montreuil. Séparé en trois parties, le documentaire De chaque instant suit leur apprentissage, l'apprentissage de la déontologie, des gestes aussi. Et puis alors c'est très pédagogique hein, parce que tout est très bien expliqué, donc vous ressortez du film en sachant vous-même faire une piqûre intramusculaire, ce qui peut toujours servir. Mais c'est avant tout l'humain ici qui est au cœur du propos. Et justement, on écoute Nicolas Philibert nous en parler.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Très important. 6, 11. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs, leur situation sociale ou leur religion.
Vous suivez donc plusieurs étudiants d'une école de soins infirmiers, donc pour devenir infirmière et infirmier, que si vous a, j'ai envie de dire, déjà donné envie de suivre cette aventure-ci.
C'est un peu le hasard qui m'a poussé vers ce projet, puisque en 2016, j'ai eu un problème de santé qui m'a conduit à l'hôpital. Petit à petit, à mesure que j'allais mieux, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces gens qui s'agitaient autour de moi. Et une fois sorti, j'ai eu envie de faire un film qui rendrait hommage aux infirmiers, aux infirmières. Mmh. Voilà, ce métier difficile, ce métier de l'ombre, qui est à la fois... je trouve que c'est assez paradoxal, c'est un métier qui est à la fois admiré. Tout le monde admire les infirmières, enfin tout le monde respecte les infirmières. Et en même temps, c'est un métier qui est assez malmené dans les services hospitaliers, dans la hiérarchie, parfois même assez méprisé. C'était important pour moi plutôt que de filmer des infirmiers, infirmières dans les services, j'ai choisi l'angle de l'apprentissage.
Comme dans Être et Avoir, en fait, c'est un petit peu une thématique un peu voisine.
J'aime bien cette dimension, l'apprentissage, la transmission, le lien. Parce que quand on filme des gens qui apprennent, on capte tout un tas d'émotions. On capte le désir d'y arriver, le désir de trouver du travail, de réussir ses études, de trouver du travail plus tard, de se rendre utile. Je dirais, ce désir est pas encore émoussé. Il y a quelque chose d'intact encore. Et puis, quand on apprend, on passe par toutes sortes de sentiments. On y arrive, on n'y arrive pas, on se décourage, on se mesure à soi-même, à ses propres limites. Et ces émotions-là, elles sont visibles sur les visages. Elles se traduisent par... c'est très... Pour qui filme ça, c'est souvent très... Très riche.
Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau.
Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup.
Je sers de cobaye, non ? Ou c'est la...
Mais vous en faites
je
pas.
Je suis pas le premier.
Hein ?
Je suis pas le premier.
Vous êtes mon premier.
Alors, au niveau mise en scène, on est vraiment dans une épure, c'est-à-dire que vous faites oublier. Voilà, c'est très sobre. Il y a souvent la même échelle de plans. Pas de musique, pas de voix off. Vous ne venez pas interagir de façon directe avec les gens que vous filmez. Donc, j'imagine qu'il y a eu tout un travail préparatoire. Avant, comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place finalement?
Eh ben non, finalement.
D'accord.
je prépare très peu. Je prépare très peu parce que si je prépare trop, si j'en sais trop avant, j'ai plus envie de faire le film. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je fais un film, c'est d'apprendre des choses et d'apprendre au moment où je le fais, pas avant. Si je devais passer des semaines, des mois à rencontrer des experts, lire des bouquins, etc., je perdrais un peu de mon appétit. J'essaie de garder mon appétit pour le tournage.
Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il y a des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour pas faire de bêtises.
Pour en revenir à votre travail à vous, du coup, qui avez quand même fait le film, il y a une notion, la notion de souffrance qui est très présente, surtout dans la seconde partie, dans la deuxième partie. Comment est-ce qu'on filme la souffrance? Déjà, vous le faites avec pudeur. Comment est-ce qu'on trouve la bonne distance pour filmer ça?
Il se trouve que la plupart des personnes que j'ai, des patients que j'ai sollicités ont accepté. Mais j'ai pris le temps nécessaire, même si j'avais pas toujours beaucoup de temps, mais j'ai quand même toujours fait l'effort et pris le temps de leur expliquer ce que je faisais, pourquoi je faisais ce film, ce que c'était que ce film. Il s'agit de là aussi de trouver un peu de complicité avec les gens qu'on filme. Je n'ai sollicité que des gens dont je pensais qu'ils pourraient, en toute connaissance de cause, me dire oui ou non. Moi, j'ai envie de vous dire que mon travail rejoint celui de celles et ceux que j'ai filmés.
J'étais tellement mal pendant ce stage que je n'avais qu'une hâte que ça se finisse.
Voilà, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi.
Ah, mais il y a de quoi être fier. Hein.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Et voilà, c'est donc Nicolas Philibert que nous écoutions pour le documentaire de Chaque Instant. À noter que Nicolas Philibert, forcément, eh bien, va accompagner son film à travers la France. Le film documentaire, c'est presque aussi vieux que ce bout de pellicule qui nous montre l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Chaque semaine sortent des documentaires, hein, des œuvres qui sont souvent accompagnées par leurs réalisateurs et qui ont l'avantage donc de susciter le débat et qui libèrent donc la parole à l'intérieur de la salle de cinéma. C'est toujours bon à prendre. Certains sont marquants et font beaucoup d'entrées, d'autres sont importants et restent confidentiel pourtant. Alors ce serait une loi comparable à celle du fiction d'ailleurs. On va maintenant faire un blind test spécial film documentaire. On va écouter donc 5 extraits de films documentaires qui sont sortis dans les salles de cinéma et on commence avec bien un bout d'histoire.
C'est-à-dire que vous avez tenu à vis-à-vis de votre clientèle à ce moment-là à dire que vous n'étiez pas juif.
C'est exact.
Oui. Mais pour quel motif?
Ben parce qu'ils avaient paru que j'étais juif et puis qu'on arrêtait les juifs et puis qu'on était tous contre les juifs.
Oui. Comprenez-vous? Mais j'ai dit, il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique.
C'est ça.
Comprenez-vous? Et alors c'est là que j'ai fait, comme vous dites si bien, j'ai fait paraître une annonce, oui. Ayant eu 4 frères en guerre,
oui.
Comprenez-vous, dont un a été tué,
oui.
Et les 3 autres prisonniers. Donc
oui, mais enfin, il y a des tas de juifs qui ont eu aussi des frères tués pendant la guerre de 14.
C'est exact.
Alors c'est un film documentaire qui est sorti en 71 et qui présente la ville de Clermont-Ferrand pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sous l'occupation, en partie. C'est Max Ophuls, Le Chagrin et la Pitié.
Le Chagrin et la Pitié, oui.
Voilà. 500 000 d'entrées, un peu plus quand même en France. Allez, c'est deuxième extrait de ce blind test.
Pourquoi ne figure-t-elle pas en télévision? Pourquoi on les a pas suffisamment vues? Je pense que, je connais pas bien le sujet, mais il doit y avoir une espèce d'autocensure parce que même ça fait mal à tous les journalistes, quels qu'ils soient, de montrer à quel point ils peuvent entretenir des liens de complicité avec les hommes politiques. En termes d'image par rapport au grand public, effectivement, ça pose un problème. Donc je pense qu'il y a certainement, d'une façon générale, une espèce d'autocensure à montrer ce genre de document.
Alors, mis à part ce journaliste de M6, spécialisé dans les médias et la publicité, la plupart de nos interlocuteurs avaient plutôt cherché à esquiver la question.
Alors, c'est facile parce qu'on entend la voix,
on reconnaît bien sa voix
du réalisateur.
C'est donc Pierre Karl et c'est pas vu, pas pris.
Voilà, à la noter que c'était un film donc, qui était sur un documentaire qu'il avait réalisé, Pierre Karl, et qui n'avait pas été diffusé à la télévision. Donc...
Les salariés SL avaient repris, voilà. Il a trouvé un distributeur et il a pu le diffuser en salle.
Et après, initialement, le film qui n'avait pas été diffusé à la télévision a été diffusé sur la RTBF belge. Allez, troisième extrait.
Vous comprenez, madame? Qu'est-ce que c'est, le micro-oxygénation?
Non, elle s'en fout.
C'est vrai?
Mais si elle comprenait tout, d'abord, je ne serais pas là. Et puis, bon, si je lui dis en microbulle, elle microbulle. Puis si ça marche pas, elle me vire.
Et c'est comme ça.
C'est comme ça que ça marche. La spécialité au spécialiste.
De toute façon, le but, il est très simple. C'est toujours de faire mieux. Ouais, il n'y a pas de question à se poser. Si ça ne doit pas faire mieux, on ne fait pas.
Oui, mais pas tout le monde a les mêmes idées sur ce qui fait mieux un vin, n'est-ce pas?
Bien sûr, c'est ce qui fait la diversité. C'est pour ça qu'il y en a autant de mauvais, d'ailleurs.
Voilà, t'as raison. L'indice, c'est...
C'est 20, parce que sinon, c'est pas évident, en fait.
Non. Et donc, c'est Mondovino, oui, effectivement, de Jonathan Nociter. Là, on entendait Michel Roland, qui est ce qu'on appelle un flying winemaker, c'est-à-dire qu'il va de chai en chai pour faire le vin. Et Nociter, hein, le documentariste, s'interrogeait sur, mine de rien, cette uniformisation des goûts et cette mondialisation du vin. Voilà pourquoi ça s'appelait Mondovino. Un film de 2004. Quatrième extrait.
Ah, moi, c'est bien simple, je me nourris 100% poubelle depuis 10 ans. Depuis 10 ans, 15 ans, et je veux dire, jamais je ne suis tombé malade.
Vous n'avez pas de travail?
Ah, si, absolument, j'ai du travail, je suis salarié, j'ai un numéro de sécurité sociale.
Donc, c'est pas par extrême pauvreté que vous ramassez?
Absolument pas. Je fais la récupération uniquement par souci d'éthique, parce que j'estime que c'est absolument scandaleux de voir. Tout ce gaspillage dans les rues. Si on récupère autant de choses, ça veut dire qu'on a des catastrophes style l'Erika.
Alors, on a entendu Pierre Karl tout à l'heure, le réalisateur. Là aussi, c'est la réalisatrice qu'on a entendue poser des questions. Elle intervient.
C'est pas demain?
Non,
c'est pas le documentaire.
Non, c'est sur le glanage. C'est les glaneurs et la glaneuse.
Ah, non,
film
j'ai pas vu.
D'Agnès Varda, ouais. Film de 2000, sur donc, la récupération. Et le fait de glaner. Et c'est un documentaire où elle s'amuse énormément. Enfin, Agnès Varda, d'ailleurs, à chaque documentaire, là, en l'occurrence, elle utilise une petite caméra vidéo. C'était dans les années 2000. Les caméras devenaient
début,
de plus
d'ailleurs.
En plus petites. Ouais, oui. Donc voilà, elle s'amuse beaucoup. Et le film est très, très intéressant. Allez, on finit avec un dernier extrait à entendre pour ce blind test avec là, cette fois-ci, un réalisateur qu'on n'entend jamais.
Alors, vous êtes au parquet car on vous reproche deux choses. D'abord, des dégradations de matériel de la RATP. Vous avez fait des graffitis sur un wagon de métro?
Dans un wagon.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Je pense absolument rien, comme ça,
Vous savez que ça dégrade, que ça pollue l'environnement, que la RATP a un budget énorme pour assurer la propreté.
Non,
pourquoi vous faites ça? Ça n'apporte rien, sinon de non, salir, ça, de dégrader.
J'en refais un de temps autre, comme ça, je sais.
Ça n'apporte rien, oui. Vous gênez tout le monde.
Très drôle, moi je trouve ça très drôle. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs cet extrait. Et de s'est trouvé, donc c'est
Délit flagrant de Raymond Depardon.
Voilà, film de 94, et donc je faisais référence à Raymond Depardon qui, dans ses documentaires, n'intervient pas. Alors j'aurais pu prendre aussi Profil paysan, cette trilogie hein, sur le monde paysan français, mais voilà, bon, j'ai choisi aussi celui-ci parce qu'il est plutôt connu, réputé. Ainsi s'achève ce blind test spécial documentaire. Et eh bien maintenant, nous reprenons la voie de la fiction.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Ça va ?
J'ai juste un peu mal au ventre.
Je crois que t'es enceinte.
Remarqué à Cannes cette année où il était en compétition dans la section Un certain regard, Sophia y a obtenu le prix du scénario, probable qu'il aurait pu aussi avoir le prix de la mise en scène, tant ce film marocain de Meriem Ben Barek est bien ficelé, mais il est vrai que le scénario est aussi pointu qu'il est rusé. Il s'agit, comme son nom l'indique, donc de Sophia, une jeune femme qu'on devine à peine la première fois qu'on la voit à l'écran, comme en hors-champ. Le film s'ouvre en fait sur un repas familial où elle ne fait quasiment que servir quand les autres parlent d'affaires naissantes et bien juteuses, de quoi donner un coup de pouce à cette famille de la classe moyenne. Mais on s'intéresse davantage donc à Sophia, cette fille qu'on ne remarquerait même pas, tellement elle est discrète avant qu'elle ne se torde en tous sens. À peine 18 ans, elle ne s'en est pas rendue compte, mais elle est enceinte et pire, elle doit accoucher. Alors accompagnée de sa cousine, plus hardie et émancipée qu'elle, elle va devoir trouver un hôpital qui l'accepte, car au Maroc, un carton nous l'apprend. Alors au début du film, les relations sexuelles hors mariage sont interdites par la loi, alors voilà, vous risquez de la prison de 1 mois à 1 an de prison. Alors qui dit hors la loi, dit hors la vue, hein, pour les hôpitaux, une fois accouché, il faudra trouver le père de l'enfant. On penche d'un coup vers le thriller social, mais cette piste narrative va finalement s'épuiser au profit d'une autre, une analyse sociale du Maroc sous l'angle du féminisme. Car l'histoire de Sophia, son enfant hors mariage, n'est qu'un prétexte pour la réalisatrice à nous montrer la lutte des classes au Maroc, le poids de la loi et de la tradition face à la modernité, ou encore la corruption, hein, ce qui n'est pas nouveau dans le cinéma marocain, ou encore on y voit la domination des hommes, les moyens de monter dans les chaises sociales, ou encore eh bien, le rapport des Marocains aux colonisateurs.
Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement.
On n'a pas d'autre option.
C'est compliqué. Ils nous laissent jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père.
Tu connais le nom du père, n'est-ce pas ?
Tes parents sont anéantis.
L'amour de la première fois que tu vois dans les films. Pour moi, l'amour qui vient avec le temps.
Si Sophia parle évidemment de la condition féminine, la place des femmes au Maroc se définit en fonction d'un contexte socio-économique et ce contexte est mis en lumière par les femmes elles-mêmes. Alors il y a la mère du père de l'enfant qui est issue d'un quartier pauvre. Alors Sophia, elle, est moins pauvre mais aspire à mieux. Ses parents peuvent d'ailleurs espérer un sacré coup de pouce. Quant à sa tante, eh bien, elle est pleine aux as grâce à Jean-Luc, son mari, un Français dont on entendra le nom mais dont on ne verra jamais la silhouette. On verra tout de même sa grande maison en bordure d'océan, une ambiance qui tranche avec les intérieurs sombres de la première partie du film et qui fait éclater hypocrisie et mensonge quand les femmes sur la terrasse eh bien, tentent de dénouer la situation qui s'est un peu compliqué grâce à un effet scénaristique qui nous fait changer de point de vue aux trois quarts du film. Et donc, ben, je ne veux pas forcément vous en parler. Le film de Meriem Ben Barek est tout en nuances. Il y a effectivement eh bien, la lumière qui éclaire chacune des situations, mais aussi les propos des personnages. Ainsi, Sophia parle un français hésitant. Sa cousine, comme sa tante, elle maîtrise parfaitement notre langue, ce qui met une distance. Hein. De même, elles n'ont pas à porter une djellaba quand elles sortent, au contraire, de Sophia. Ce regard-là sur le Maroc moderne est admirablement porté par la mise en scène qui écarte l'enfant. Hein. Cet enfant constamment mitouflé, dont on voit trop rarement le visage, n'est pas le sujet du film. Il s'efface devant la situation que sa mise au monde engendre. Une situation qui place Sophia d'abord en victime, mais dont elle sortira peut-être gagnante. Elle qui ne croit pas qu'on puisse se marier par amour, qui pense au contraire eh bien, que le temps arrange tout. Cette vision, comme d'autres, tranche avec la vision que peut avoir eh bien, sa cousine, notamment un mieux loti qu'elle, sur le Maroc, le monde et même l'amour. Alors le film de Meriem Ben Barek pose un regard acerbe, dur et net sur la situation marocaine qu'on peut aussi sans peine extrapoler à d'autres sociétés. La portée de l'ascension sociale finit par dominer le récit qui sait se faire âpre comme précis et léger. Voilà, alors c'est filmé de manière très naturaliste, même si bien tout ce qui se rapporte au bébé finalement est parfois un peu raté. Il y a notamment une scène où elle le porte au sein. Et on voit à peine le sein. Alors, est-ce que c'est une espèce de censure de l'image marocaine? Enfin, là, je n'ai pas très bien compris, mais ce n'était pas la première fois. En tout cas, il y a ce bébé qui est vraiment mis à distance. Voilà, Sophia de Meriem Ben Barek, c'est en salle depuis le 5 septembre. Il y a un DVD, en revanche, qui te tient beaucoup à cœur, qui va sortir à la fin du mois. C'est un film de Mario Bava dont tu nous parles maintenant.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Les crimes sexuels les plus impitoyables.
Assassin! Espèce de salaud! Mais à vous donc, c'est toi l'assassin! Inspecteur, il faut l'examiner. C'est un impuissant.
Chalot!
C'est pour ça qu'il hait les femmes. Il les tuerait toutes parce qu'il n'est pas capable d'en avoir une seule!
Dialogue, je dirais, assez typique hein, du giallo, hein, ça veut dire jaune en italien, qui s'est inspiré, un genre cinématographique qui s'est inspiré, on va dire, des romans policiers de gare, qui avaient donc leur couverture toute jaune. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ce genre qui est né dans les années 60, giallo. Alors, Isabella, mannequin dans une maison de couture, hein, dirigée par Christina et son amant, mort lâchi, est retrouvée étranglée. Alors, un mystérieux assassin, affublé d'un masque sans visage, rôde aux alentours. Le commissaire chargé de l'enquête interroge le personnel, directrice, mannequin, couturier. Mais tous ont un alibi. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a l'air totalement innocent. Et bien sûr, les crimes se poursuivent. Alors, la sortie de 6 femmes pour l'assassin en combo DVD Blu-ray chez Studio Canal, hein, fin septembre, s'impose comme l'événement majeur de cette rentrée, du moins pour les sorties hein, DVD. Le film n'étant disponible dans l'Hexagone seulement en VHS. Hein. Alors, il y a beaucoup d'imports, hein, il est trouvable à l'étranger, mais en France...
Ressortir le magnétoscope.
La copie, elle est un peu délavée, hein, parce que je l'ai encore, d'ailleurs, hein, elle est d'époque. Alors, pas la peine de tergiverser, un 6 femmes pour l'assassin et le giallo, on va dire, définitif, œuvre matrice dont on n'a pas fini de décortiquer les fulgurances esthétiques et narratives. Bava, en pleine possession de ses moyens, livre son chef-d'œuvre, le titre de référence pour une génération de futurs cinéastes et cinéphiles. Et pourtant, le film fut considéré pendant très longtemps comme une aimable plaisanterie. Alors, il suffit de jeter un coup d'œil à la scène d'intro pour être stupéfait par le génie de l'auteur. La modernité de la scénographie, rythmée par une partition mambo jazzy, ouvre le bal d'ingénieux mouvements de caméra explorant l'intérieur d'un institut de couture peuplé de mannequins. Alors des travelling avant et latéraux, des rotations de la caméra caressent le contour des mannequins, éclairés de façon quasi expressionniste, tels des personnages prisonniers de leur sort. Alors d'emblée, Bava creuse le sillon d'une des thématiques essentielles de son cinéma, la réflexion autour de la présence-absence des comédiens. Ces derniers sont des éléments de décor valorisés par une plastique irréprochable, une toilette impeccable et une démarche élégante. Alors, ils sont les archétypes des personnages sophistiqués des romans photos pris dans la tourmente d'une intrigue diabolique qui mêle donc sadisme, érotisme, violence et perversité. Joli programme. Alors Bava, tel un sculpteur sur pellicule, fétichise le moindre objet, érotise le moindre corps. Le refus du psychologisme de donner une densité à ces silhouettes les rend paradoxalement bien plus fascinants jusque dans leur comportement fielleux. Les nombreux meurtres posent les jalons de presque tous les giallis qui suivront. Alors un tueur masqué, hein, vêtu d'un imperméable et de gants noirs, des jeunes filles, surtout innocentes en apparence, l'utilisation des armes blanches ou de la strangulation, surtout cette ritualisation fétichiste du crime se démarque par sa durée. Alors Bava sait que le cinéma est en train de muter et prend en compte donc certains changements. Une modernité s'impose dans la dilatation du temps. Alors qu'un peu comme Léon pour le western ou Antonioni pour l'étude des sentiments, Bava prend soin de suspendre la durée, d'isoler les moments de bravoure, pur fantasme graphique divinement éclairé et découpé avec un sens inouï du tempo. Alors dans le cinéma, on va dire de grande consommation, il était le seul à aller aussi loin dans l'expérimentation. Alors loin de toute morale, hein, il a filmé le meurtre comme un artiste peint une toile. Les couleurs à dominante bleu, rouge et vert sont soigneusement agencées dans le cadre pour former une multitude de cadres possibles. Alors on reconnaît la patte du grand chef opérateur qui a été Bava dans ses premiers essais. Et ainsi, cet arsenal visuel permet de valoriser les points de détail. Une lame qui scintille, des yeux grands ouverts de la victime, une page d'un journal. A contrario, des lieux communs érigés à son encontre, Bava n'est pas un formaliste dont le talent tournerait à vide. Son génie graphique est une manière d'atténuer quelque peu la noirceur de son propos ou de rendre acceptable sa misanthropie naturelle. Alors si Bava situe son film dans le milieu de la mode, hein, c'est pas simplement une une posture esthétisante. Il s'agit pour Bava de filmer un monde d'apparence étincelant à la surface et un peu pourri à l'intérieur. L'éternelle histoire du ver dans la pomme recommence. Tiens, Bava serait presque aussi un peu un précurseur de David Lynch, hein, une piste à suivre en tout cas. Alors théorique, ludique et poétique, Six femmes pour l'assassin stimule la cohabitation entre la glace et le feu, le trivial et le raffiné, l'élégance plastique de la mise en scène et la sauvagerie des meurtres. Alors ce giallo, hein, structuré un peu comme un film noir, adoptant le point de vue des victimes, joue sur les nombreuses fausses pistes, s'amuse de son cynisme qui culmine dans l'épilogue particulièrement agressif. La machination diabolique laisse un goût amer dans la bouche. Le maestro poussera d'ailleurs le bouchon encore plus loin, 8 ans plus tard, avec un autre film étonnant, qu'on peut considérer plus comme un slasher que comme un giallo, c'est la baie sanglante, avec une intrigue assez étonnante.
Eh bien, merci Manu, on a donc terminé avec un DVD pour cette émission Cinérama.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, nous aurons deux interviews, celle de Fawzi Ben Saidi, réalisateur de Volubilis, et celle de Mathieu Sapin et d'Alexandra Lamy pour le film Le Poulain. Et toi, tu auras vu
La Nonne et Mademoiselle de Jonquière.